Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
L'Australie offre l'asile climatique aux citoyens de Tuvalu, nous apprend une dépêche de l'AFP du 10 novembre. Ce petit archipel au milieu de l'océan Pacifique, 11 000 habitants, fait partie des nations les plus menacées par le changement climatique et la montée des eaux. Deux de ces 9 atolls ont déjà été largement submergés et des spécialistes estiment que Tuvalu sera complètement inhabitable d'ici à 80 ans. L'Australie a donc annoncé offrir aux habitants de Tuvalu des droits spéciaux pour s'installer et travailler en Australie dans un traité signé entre les deux pays. Nous croyons que le peuple de Tuvalu mérite d'avoir le choix de vivre, d'étudier et de travailler ailleurs alors que le changement climatique empire, ont déclaré dans un communiqué conjoint le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue de Tuvalu, Kosea Natano. Les Tuvalais pourront bénéficier d'un accès aux services australiens qui leur permettront une mobilité dans la dignité, précise le texte. En octobre, M. Natano a déclaré à l'agence France-Presse que l'archipel risquait de disparaître de la surface de la Terre si aucune mesure drastique n'était prise. Le traité va permettre aux Tuvalais de conserver les liens ancestraux profonds qui les unissent à leur terre et à la mer. Mais le passage à l'action arrive tardivement. Monsieur Natano a affirmé que le traité représentait un espoir et un grand pas en avant pour la stabilité régionale. Il doit cependant encore être ratifié par les deux pays pour devenir effectif. Le politologue François Gemmel, co-auteur du 6e rapport du GIEC, déclare « C'est évidemment un pas important vers une forme de reconnaissance juridique que les impacts du changement climatique sont des motifs de plus en plus importants de migration et de déplacement à travers le monde. Cela signifie, bien que de plus en plus nos régimes d'asile et de migration vont sans doute devoir s'adapter à cette nouvelle donne. » Face au réchauffement climatique, pour chacun de nous, il ne s'agit pas simplement de savoir si je dois moins consommer de viande et prendre plus souvent le vélo, mais bien de s'interroger au système de solidarité entre les peuples et d'accueil des migrations. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Rognon. Nous sommes en duplex avec les studios de RCF Strasbourg. Merci à eux. Je rappelle, vous êtes Frédéric Rognon, pasteur de l'Église protestante unie de France et professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Nous sommes donc très heureux de poursuivre cet échange. J'aimerais vous poser quel apport de Lanza de Vasto à la notion de non-violence, parce que vous avez en particulier travaillé et présenté la pensée et l'action de Lanza de Vasto. C'est un de vos thèmes de recherche. Est-ce que Lanza de Vasto a un apport spécifique, intéressant, important pour la non-violence ?
Alors Lanza del Vasto a marqué plusieurs générations à partir des années 40, 50, 60, à partir de son premier livre, hein, 1943, Le pèlerinage aux sources, qui raconte sa rencontre avec Gandhi en 1937. Et donc le premier rapport de Lanza del Vasto, je dirais que c'est le fait de faire connaître en Occident et tout particulièrement en France la figure de Gandhi qui était peu connue, et puis la non-violence inspirée de Gandhi, qu'il a donc popularisée en France et qu'il a essayé de mettre en œuvre à travers des actions publiques, mais aussi et peut-être d'abord à travers une vie communautaire, puisqu'il est fondateur des communautés de l'Arche, hein, 1948. Et donc son deuxième apport, je dirais, c'est au-delà de cette popularisation de la non-violence, c'est d'avoir expérimenté au quotidien la non-violence dans la vie communautaire. Donc les communautés de l'Arche qui ont été fondées il y a 75 ans, on fête cette année les 75e anniversaire de cette fondation, ces communautés cherchent au quotidien à appliquer la non-violence dans toutes les dimensions de la vie, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'économie, l'agriculture, la prise de décision, la justice telle qu'elle est rendue dans ces communautés, la manière de vivre ensemble au quotidien. Je crois que ça, c'est vraiment un apport de Lanza del Vasto, s'inspirant évidemment de l'expérience de Gandhi, de sortir la non-violence un peu de son ghetto culturel. Hein, on ne connaissait pas bien la non-violence avant. Et de l'expérimenter, pas seulement d'en faire une idée ou l'objet de réflexion ou de livre ou de conférence, mais de l'expérimenter au quotidien et pas seulement d'en faire un moyen d'action politique, ce qu'il a fait aussi, mais d'abord de l'expérimenter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans sa vie de tous les jours avec ses proches. Je crois que c'est ça vraiment le grand apport de Lanza del Vasto par rapport à la non-violence qui nous laisse en héritage, en quelque sorte.
Lanza del Vasto a beaucoup écrit, des poésies, des pièces de théâtre aussi, je crois. Est-ce qu'il y a une œuvre, un texte, un livre qui vous marque le plus et que vous conseilleriez à lire en premier, à part peut-être Le pèlerinage aux sources, qui est en effet une magnifique histoire, cette magnifique rencontre avec Gandhi?
Alors, on a l'embarras du choix, parce qu'il a écrit plus d'une trentaine de livres, effectivement, des livres de différents types, des poésies, pièces de théâtre, romans, témoignages, mais aussi des livres, des essais sociopolitiques, des livres sur la vie intérieure, sur la vie spirituelle, sur un commentaire de l'Évangile aussi. Alors, si je devais te dire, le livre qui me marque le plus, qui est un peu mon livre de chevet, et notamment aujourd'hui, quand on parle de sobriété, quand on parle de dérèglement climatique, il y a un livre qui est très saisissant, qui s'intitule Principes et préceptes du retour à l'évidence. Principes et préceptes du retour à l'évidence, avec comme sous-titre Éloge de la vie simple. Et donc, c'est un livre qu'il a écrit quand il, en 1933, il a pris la route, un peu comme un beatnik avant l'heure, un routard. Hein. Pendant 3 mois, il a sillonné l'Italie à pied, sans argent, donc en vivant simplement du travail de ses mains. Et il a écrit ce livre comme une invitation à simplifier nos besoins, à réviser nos besoins, à simplifier notre vie. On ne parlait pas beaucoup d'écologie à l'époque, mais c'est un des précurseurs, mais aussi dans le sens aussi de plus de justice et plus de retour à l'essentiel. Donc, principe et précepte de retour à l'évidence, c'est un retour à l'essentiel, un retour à Dieu, un retour à l'Évangile dans sa simplicité. Et ça, je le conseillerais parce que c'est mon livre préféré, mais il y en a bien d'autres. Hein, ça dépend aussi de l'intérêt du lecteur.
Oui, mais on note, et je pense qu'on aura l'occasion de peut-être de faire des citations. Vous l'avez évoqué, il se présente aussi comme un penseur chrétien. Il a, par rapport peut-être à la religion chrétienne, il a eu, je pense, un regard, une approche peut-être un petit peu nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là?
Alors, il est chrétien, il est catholique, ça, il le revendique. Enfin, il n'a jamais renié cette identité, d'autant que il considère paradoxalement que sa rencontre avec Gandhi en 1937, Gandhi l'hindou, qui avait été tenté de devenir chrétien, mais qui finalement est resté hindou, c'est Gandhi qui l'a ramené à sa foi chrétienne. Hein. Paradoxalement, il a considéré que Gandhi vivait l'Évangile sans être chrétien et que c'était une manière de nous chrétiens, de nous rappeler quel était l'essentiel du message évangélique. Et donc, il est revenu en Europe et il a essayé de se réapproprier sa foi chrétienne et de revenir aux sources de cette foi. Et il considère que la source de la foi chrétienne, c'est la non-violence, c'est l'enseignement du Christ, l'amour des ennemis. Finalement, on avait oublié dans la tradition chrétienne des choses qui sont essentielles dans l'enseignement du Christ et que Gandhi lui a rappelé. Et puis, alors, son apport peut-être un peu original ou son rapport à la tradition chrétienne un peu original, c'est le fait d'être à la fois toujours en réenracinement dans cette foi chrétienne de conversion permanente au Christ, et en même temps d'ouverture radicale aux autres traditions. Et c'est ce qu'il va mettre en œuvre dans les communautés, c'est-à-dire que les communautés sont ouvertes à tout un chacun, quelle que soit sa tradition religieuse. Donc il était d'abord œcuménique avant la lettre, hein, dans les communautés protestants orthodoxes vivent en bonne harmonie avec les catholiques depuis très longtemps, mais aussi des personnes d'autres traditions, juives, musulmanes, hindous, doivent trouver leur place pour que on vive en bonne harmonie. Donc c'est un souci de réconciliation religieuse, non pas par syncrétisme, mais par approfondissement par chacun de sa propre tradition et ouverture aux autres. Donc c'est cette dialectique entre l'enracinement dans sa foi chrétienne et l'ouverture à l'altérité qui, à mon avis, est assez original et surtout très précoce. On est avant Vatican II, hein, on est donc dans les années 40-50. Son commentaire de l'Évangile, qui date de 52, a reçu l'imprimatur, alors qu'il a des positions très audacieuses sur le pluralisme religieux, hein, une grande ouverture aux autres, dans l'enracinement à sa propre foi. Donc je crois que c'est ça qui est vraiment spécifique à Lanza del Vasto et très actuel finalement.
Merci pour ce parcours, ce regard sur la réflexion et l'action de Lanza del Vasto. Merci Frédéric Rognon. On va donc continuer la semaine prochaine ces échanges et ces réflexions sur la non-violence. Merci beaucoup et donc à la semaine prochaine.